Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le Tilt Show, je suis Aurore et aujourd'hui on a une émission un petit peu spéciale à vous proposer avec mes acolytes Boule et Tom.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
D'ailleurs Boule, aujourd'hui on va te laisser mener la danse il paraît.
Il paraît. Alors attention aux résultats. Non, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque en fait c'est toi Aurore, toi Tom Tom qui allait être nos invités aujourd'hui puisque on va parler de Coup de poker, un livre que tu viens de sortir Aurore. Et donc avec nous dans le studio, on a aussi d'autres invités. On a Jay qui est avec nous.
Bonjour tout le monde.
On a Limper aussi qui est avec nous.
Bonjour à tous.
Et on a Ben qui est avec nous.
Salut tout le monde.
Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de Coup de poker. Oui, vas-y.
Ça va être une émission assez spéciale aussi. Boule a oublié ses notes.
Ouais, donc excusez-le. On le fait à l'impro total aujourd'hui. Du coup, ça, on verra bien ce que ça donne.
Oui, mais Boule a lu le livre quand même, donc il sait de quoi il va parler.
On a fait des efforts, en effet, on a lu tout le livre. Et du coup, aujourd'hui on va parler de Coup de poker. Du coup, un roman que tu as sorti il y a une semaine, Aurore. Pour
ouais,
Pâques.
Officiellement, il y a une semaine en vrai et puis presque deux en ligne.
Donc déjà, on peut le retrouver du coup sur la plateforme Amazon pour ceux qui veulent acheter le bouquin. Et du coup, Coup de poker, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle du coup ?
Eh bien, ça parle de poker. Ta-da ! En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une finale nationale Red Cactus, je parlais avec Céline, la cofondatrice, et puis elle me dit « Mais Aurore, pourquoi tu n'écris pas sur le poker puisque tu écris des livres ?» J'ai dit « Écoute, pourquoi pas, mais moi je voudrais écrire une success story. Si c'est quelqu'un que je connais qui gagne, vas-y, je vous accompagne à Vegas. » Et il se trouve que c'est quelqu'un que je connais qui a gagné, puisque c'est Limper, qui est avec nous dans le studio, président du club Poker Club de l'Oise à Chevrières, et aussi joueur Red Cactus, du coup, puisqu'il était à la finale nationale. Donc, partant de cet élan-là, finalement, je me suis chauffée à dire « bah vas-y, ok, je vais aller au bout de ce qu'on s'est dit, et puis on va partir à Vegas ». Et puis, c'est un groupe de 14 personnes, finalement, qui est parti à Vegas cette année-là.
Donc, un groupe assez conséquent, quand même, pour partir à Vegas. Ça fait un groupe plutôt sympa, quoi.
Bah oui, il y avait de l'ambiance. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je savais que je parlerais forcément de Limper, puisque c'est lui qui nous a emmenés dans cette aventure-là, dans le livre. Mais j'avais envie aussi de trouver d'autres joueurs à qui il allait arriver des choses. Sauf qu'en partant, je ne savais pas de qui j'allais parler. Je l'ai su qu'en fonction de ce qui s'est passé sur place.
D'accord. Du coup, en fait, ça t'a permis, en fait, en arrivant sur place, t'as surfé en fait sur la vague et t'as pris en cours les histoires des joueurs que tu as trouvés.
J'ai essayé de suivre un peu tout ce que tout le monde faisait au niveau des tables de poker. On a aussi profité, c'était des vacances, c'était pour beaucoup d'entre nous la première fois qu'on partait à Vegas. Donc on a aussi cet émerveillement-là de la première fois dans une ville pareille. Même si je suis allée souvent aux États-Unis, Vegas est quand même une ville qui ne ressemble à aucune autre et qui a des particularités qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs.
D'ailleurs, donc, sans dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais il y a aussi, ça fait un peu aussi carnet de voyage dans ton bouquin où on peut retrouver aussi des petites apartés justement sur le folklore autour de Las Vegas en fait quoi.
Absolument, l'idée c'était de faire un roman qui soit à la fois un peu journalistique dans le sens où j'étais sur place, j'ai suivi les joueurs, j'ai aussi interviewé des professionnels du milieu qui permettent du coup d'entrecouper un peu le récit avec de l'information et une vision du poker plus globale et puis cette partie carnet de voyage comme tu dis puisque on n'est pas tout le temps à table en train de jouer, on voyage aussi à travers Las Vegas.
Je profite aussi du voyage de Las Vegas bien sûr pour découvrir ce qui se passe un peu aux alentours aussi de Vegas quoi. C'est plutôt sympa.
Elle m'a traîné pour sortir des casinos, moi je vous le dis mes chers auditeurs, j'étais pas trop touriste là-bas.
Ah ouais, Tom, c'était dur. Il voulait, du matin au soir, il voulait aller jouer. Donc, il se levait le matin, il disait « Bon, alors, je regarde sur mon appli, quel tournoi je vais aller faire ?» Et puis, avec Ben, on était là « Ok, à tout à l'heure, nous, on va à la piscine. »
C'est exactement ça, oui, tout à fait.
Mais bon, je sais que t'as pu faire quelques excursions quand même à côté, Tom, et que bah, finalement, t'es quand même pas déçu d'être sorti un peu de Vegas et d'avoir été faire cette
excursion. Oui, bien entendu, ouais, on a été fait quelques belles excursions, ouais, que vous retrouvez dans le livre, justement.
Du coup, on va parler un peu du coup de ce qui t'a amené, ce que tu nous as dit, ce qui t'a amené du coup à écrire ce livre. Du coup, suivre la personne qui te connaissait, en l'occurrence Limper, qui a gagné la finale des championnats de France Red Cactus l'année dernière. Et du coup, le projet s'est développé autour de ça au départ.
Ben oui, parce que gagner. Enfin, on était avec Tom et ben Jay aussi. Tu l'avais fait cette finale nationale.
Bien sûr.
Donc on était tous là, ce week-end-là, pour la finale nationale. Et en voyant Limper avancer d'étape en étape, hop, jour 1, ok, on passe au jour 2. On s'est dit, bah, même si nous, on n'est plus dans le tournoi, on va rester, on va l'encourager. Et puis il va nous en parler un petit peu, non, quand même, de sa finale nationale, Limper.
Oui, c'était super. J'ai bien chaté, on va dire.
Déjà, est-ce que tu peux nous refaire un peu le processus? Comment tu t'es qualifié pour arriver à la finale? Par quel biais avant de...
Alors, c'est du hasard. J'avais un ami qui tenait un bar et il faisait Red Cactus depuis pas longtemps. Donc, j'étais le voir, je me suis inscrit.
C'était dans quel bar?
À Saint-Martin-Lanloup.
D'accord.
Mais c'est fermé.
C'est fermé.
C'est fermé. Enfin, c'est réouvert, mais ils ne le font plus. Et donc, j'étais là-bas. J'étais... en table play-off, parce que j'étais quatrième, je crois, et il fallait deux inscrits, enfin deux...
Donc en fait, les play-offs, c'est les joueurs qui sont qualifiés avec un tournoi annexe au classement original,
voilà,
c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Oui, en fait, les deux premiers, s'il y avait deux tables, les deux premiers sont qualifiés d'office pour la régionale, et puis il y a une partie où tous les autres qui sont...
Une table de 8.
Une table de 8 ou une table de 16, ça dépend s'il y a combien de tables il y avait, mais il y en a un autre qui peut chater, ça...
J'ai bien peut, sur un tournoi, du coup, prendre sa place en...
Pour aller en régional.
Pour aller en régional.
Voilà, donc j'ai fait la play-off, j'ai sorti tout le monde en une heure. J'ai fait...
partie rapide.
C'est voilà. Trop facile, le poker.
On a joué 10 mains, j'ai sorti un joueur par main, quoi, à peu de choses près. Et
rentabilité 100%.
Voilà. Donc j'étais qualifié pour aller à Livre, hein, pour la régionale. Il fallait être dans les 15 premiers pour aller en nationale. Et donc je suis sorti premier. Sur.
T'as gagné à Livre, du coup, c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça, oui.
En j'ai... 15 mains.
Non.
Sorti tout... Non, on, ah non, quand on... même pas.
Non,
ah,
non, quand même pas, mais...
On y a cru, à Charles Auditeur.
À la table finale, oui, quand même. À la table finale, je suis plus d'heure, il est sorti le premier. J'ai tout pris. Et après, bah, ça s'est déroulé tranquille, quoi. J'ai bien touché, et puis c'était nickel. Et puis, pour aller à la nationale...
Du coup, ça t'a qualifié pour la finale nationale, voilà. Qui s'est déroulée où?
C'était à Nanterre.
À Nanterre.
Voilà. Et donc, ça s'est bien... Au début, très mal passé. Les deux premières heures avant la pause, j'étais avec Aurore et Tom, et j'ai joué que des grosses mains, comme je joue jamais, quoi. Et je me suis fait pris sur les 60 000, il me restait 25 000, quoi. Au bout de deux heures.
Au bout de deux heures, déjà.
Voilà, ça je me suis fait craquer les rois, les as.
Un bad run.
Voilà, tout ce que je joue pas, quoi. Puis après, j'ai dit à Aurore et à Tom, j'ai dit, c'est fini, je joue à ma façon, comme je sais faire. Et puis bah, après, ça s'est déroulé. Hein.
Oui, parce que mes chers auditeurs qui connaissent pas Limper est un sacré personnage dans la région au niveau du poker. Hein.
Ouais,
un petit peu. Il ne joue pas les grosses mains.
Non.
Il n'aime pas.
Non, j'aime pas et je les perds tout le temps. Donc j'ai touché les rois trois fois, enfin, presque d'affilée. Les rois, deux fois les rois, une fois les dames, j'en ai sorti quatre. Et après, bah, j'avais du stack pour coller tout, quoi. Et puis ça a bien marché.
Ouais. Il y en a qui ont la belle vie quand même, trois fois les rois, c'est deux facile. Fois les dames.
C'est rare.
Easy poker, comme on dit.
Et pour une fois, ça passait.
Et est-ce que tu as fait les calculs de cotes?
C'est
t'as
non.
Non. Alors Limper, faut écouter non. Le podcast des émissions précédentes où tu pourras apprendre à faire les calculs de cotes.
À l'instinct, c'est mieux, moi je trouve. Enfin, moi je joue voilà. Comme ça toujours.
Non, une autre façon de jouer au poker.
Ouais, bah voilà. Poker. Après, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, ça rapporte. Ça rapporte bien.
Limper a souvent une bonne étoile au-dessus de lui et ouais. Passe.
C'est vrai. Les
passe
bons...
souvent des belles journées au poker.
Ouais, c'est vrai. J'en ai des mauvaises, mais les bonnes, ils sont là, quoi. Ça m'a amené quand même à Las Vegas.
Et ben voilà. Et donc Limpert est parti à Vegas. T'as été jouer du coup le main event des WSOP.
Tout à fait.
Donc le tournoi le plus prestigieux au monde.
Ouais.
Et du coup, ça fait quoi de jouer ce tournoi-là?
Ça fait drôle, hein. Quand on voit les tables qu'il y a, enfin les salles de table où il y a 6000 personnes, c'est incroyable, quoi. On cherche
la
toujours
grandeur,
ça.
La profondeur des salles, c'est ça?
Ouais, il y avait au moins deux grandes salles, mais c'était infini, quoi. C'est incroyable.
Et outre le poker, as-tu passé une bonne semaine de vacances?
Très bonne.
Très bonne.
Ouais, je dirais pas tout, mais très bonne journée.
On ne spoil pas, il y a le livre.
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Certaines choses, oui, il faut mieux, oui.
Sauf si vous lisez Coup de poker.
Ouais, exactement. Voilà. Non, c'était
une raison
super.
De plus pour pouvoir acheter ce beau livre et vraiment pouvoir détailler toute leur semaine passée comme si on était présent à leur côté, en fait. C'est vraiment génial.
En fait, le slogan « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » est issu du film « Very Bad Trip ». Mais en fait, quand on arrive à Las Vegas, dans l'aéroport même, le slogan qu'ils nous donnent, c'est « Ce qui arrive à Vegas n'arrive qu'à Vegas ». Et c'est tellement vrai. Enfin, y a des tas de choses qui se sont passées qui n'auront jamais lieu ailleurs. Enfin, c'est...
La ville qui se prête à tout ça, justement.
Et... La ville de tous les possibles.
C'est ça.
La ville du péché, oui, parce qu'on la surnomme aussi. Ouais. City,
bon, pour en parler plus. Hein.
Et du coup, pour cette deuxième partie, on va parler de Jay, un deuxième personnage du coup du livre Coup de poker. Jay, toi, tu as eu un parcours un peu différent de celui de Limpert, du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à Vegas?
C'est tout simple. Pour repartir des départs sans spoiler le livre, je suis arrivé chez Red Cactus en 2019. Avant, je faisais du poker amateur entre potes, c'était vraiment ludique. Et là, j'ai découvert un poker un peu plus cortiqué hein, que celui que je jouais, en fait. Hein, un peu plus
technique.
Un peu plus technique et approfondi, ouais. Donc, je m'y suis intéressé. Et, à partir de là, j'ai vu que ça marchait bien. J'ai perfé. 3 années consécutives, j'ai fini premier national. Donc, je me suis dit, il faut quand même quelques qualités.
Une belle régularité.
C'est ça. Donc, c'est un peu mes qualités, hein, patience, régularité. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a quand même, même si j'ai beaucoup de chance, mes potes le diront, vous le direz. Hein,
mais il en faut.
On n'arrive pas là par hasard. Donc je me suis dit, donc en 2024, ce qui serait bien, c'est de gagner cette finale nationale, mais bon, Limpert.
Limpert était sur ton chemin.
Ouais, voilà, j'ai rencontré Limpert, donc voilà.
C'est pas Limpert qui t'a éliminé?
Non.
Non, non.
Non, non.
Ah, ça aurait été drôle.
Donc du coup, c'était pour mes 50 ans, je me le suis offert. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est un peu le graal de tous les joueurs, hein, même amateurs ou pros. Hein, et nous sommes amateurs. Donc, je me suis dit, je vais aller mesurer un peu, voir mon niveau là-bas, ce qu'il en est.
Mais du coup, tu avais quand même déjà un peu anticipé la chose, quoi, en sachant que si tu gagnais pas la finale, tu te le paierais quand même.
Je l'avais dit déjà. J'avais anticipé depuis un an, je préparais, j'ai fait appel à des sponsors, j'ai moi-même, je me suis préparé physiquement, mentalement, et puis beaucoup travaillé le poker pendant au moins 9 mois quoi, au quotidien.
Qu'est-ce que tu appelles beaucoup travailler le poker? T'as fait des coachings, t'as fait des choses comme ça?
Ouais, j'ai lancé un de mes potes qui se débrouille pas mal d'ailleurs au bout d'un an, qui lui-même au bout de 6 mois a gagné un FPS à Barcelone. Donc tu vois, c'est
plutôt des débuts convaincants.
Ouais, plutôt pas mal.
Il a gagné son ticket pour le FPS.
Il a gagné son ticket.
Oui, ouais, il a pas gagné le FPS.
Ouais,
il
a pas gagné le FPS.
Préciser.
Ah,
faut préciser. Ouais, il a gagné son ticket. Et avec ce pote, on a tous les soirs, quasiment au quotidien, on travaillait jusqu'à des 3, 4 heures, 5 heures, on analysait des parties, on a beaucoup, beaucoup travaillé, ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, hein. Beaucoup, beaucoup aidé. pour ce main event qui est quand même...
Et du coup, t'es parti avec quels objectifs, quelles ambitions en partant pour Vegas ?
Ah ben l'objectif, c'était l'ITM.
L'objectif, c'était l'ITM.
C'était pas la TF, hein. Je savais que j'avais pas le niveau.
Après, on vous laissera découvrir s'il a réussi ses objectifs ou pas.
Ouais, bien sûr. Livre, mais l'objectif dans ma tête, c'était ITM, forcément.
Le rêve.
Bah ouais, le rêve. Et rêve. Puis ça se ferait peut-être qu'une fois, donc autant le faire bien. Bien sûr. Donc vous verrez ce qui s'est passé réellement. Et puis prendre un kiff énorme. Parce que déjà, le fait d'être aussi nombreux, 14, je pense que tu le vis différemment que si j'étais tout
groupe.
Seul. Toi, le fait d'être en groupe, il y a eu une dynamique, une cohésion de groupe. C'était l'euphorie, quoi. Donc ça a contribué aussi à la magie du séjour.
Il y a une chose que je précise à un moment dans le livre, c'est que tu as eu la chance d'être souvent en bord de salle. Et du coup, on pouvait être à côté de toi, derrière toi.
Du coup, vous étiez tous à côté de moi. Et même les joueurs de la table, ils me disaient « Mais t'es connu, t'es une star, t'es un pro. » Non,
je
suis un amateur, je viens d'Abbeville. C'est juste un kiff. Et non, franchement, j'ai eu cette chance à chaque fois de vous avoir derrière le dos. Et puis, ça fait beaucoup. Hein,
ça enrichit l'expérience.
Total. On te soutient, on te supporte, donc tu dois faire un bon poker. Et puis, encore une fois, c'est une émulation, c'est une cohésion de groupe. Ça a été fantastique. Plein d'émotions, plein de rebondissements. Je vous encourage à lire le livre. Franchement, même pour les novices, les néophytes en poker, il est totalement fluide et lisible et on comprend tout, quoi. Et on revit ce que nous on a pu vivre. Franchement,
après,
c'est
tout ce qui
est énormément bien retranscrit. Ouais, c'est bravo, Aurore. C'est franchement.
Merci.
Ouais. Non, c'est ce qu'on a vécu et c'est ce que tout le monde peut vivre, toi, en lisant ce livre. On peut ressentir les émotions. L'aventure qu'on a pu vivre, on la revit en lisant ce livre.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ayant eu la chance de lire le livre un petit peu avant sa sortie. En effet, les émotions, en effet, elles sont bien.
Je cache pas que quand je l'ai relu, j'ai
dans la peau des personnages et ressentir ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là.
Je cache pas
encore
qu'il m'a
quand
fait
on est joueur.
Ouais, qui m'a fait pleurer. Hein. J'ai pleuré en relisant hein. Parce que c'est nous qui l'avons vécu.
Ça te fait revivre des émotions.
C'était une aventure folle, magique et forte en émotions. Donc forcément, ça te reprend les tripes, quoi.
Ouais, je comprends.
C'est pour tout joueur, hein, c'est le Graal, quoi, là-bas. C'est à vivre, c'est à faire. C'est démesuré, c'est énorme. Et tu te dis, c'est l'endroit où tu dois être quand t'aimes le poker, quoi, tu vois.
Mais je pense que tout joueur qui lira le livre pourra s'imprégner et ressentira ses émotions.
Et puis pourra peut-être te dire, tiens, pourquoi pas moi, et j'y fonce, quoi.
Exactement, ça va peut-être ouvrir des vocations.
Bien sûr.
Mais attention, on met pas le portefeuille à l'envers.
Ah non, aucunement, jamais se mettre en danger, bien sûr.
Surtout quand on est à Vegas, c'est tellement tentant partout.
Bah, carrément, ça peut être très dangereux. Ouais. Faut rester lucide et y aller vraiment pour un kiff.
Mais c'est ce que j'avais envie de faire passer aussi comme message, de dire que voilà, c'est un rêve. Enfin, ça reste la destination favorite des joueurs de poker français, Las Vegas. Mais c'est un rêve qui peut être abordable, soit parce qu'on a la chance de gagner. Un tournoi et un package pour y aller comme Limper. Il y a aussi les championnats de France de la Fédération qui vont avoir lieu fin mai à Aix-en-Provence, qui permettent aussi de gagner ce package-là pour les joueurs de club. Ou alors, comme Jay, évidemment, c'est un budget, mais on n'est pas non plus obligé d'aller à Las Vegas pour faire les championnats du monde. Il y a aussi des tas d'autres tournois à côté, et je pense que ça peut être bien qu'on en parle aussi.
C'est ça, il y a tous les sides... Tous les side events, du coup des WSOP, mais il y a aussi tous les tournois qui sont organisés en classique dans les casinos, qui sont réguliers, même en dehors des périodes estivales de WSOP, quoi. Et du coup, dans cette troisième partie d'émission, on va parler du troisième personnage du coup de Coup de Poker. Et le troisième personnage, vous l'attendez tous, c'est Tom Tom. Tom-Tom, lui, qui est parti du coup avec des objectifs totalement différents des deux premiers joueurs qu'on a pu écouter. Et Ben aussi, d'ailleurs, qui est avec nous et qui est aussi, du coup, parti avec d'autres objectifs, puisque vous n'êtes pas parti pour jouer vraiment des tournois de WSOP, mais plus vraiment pour découvrir tout le poker à Vegas, tout le folklore à côté, quoi. Et du coup, Tom, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment tu as vécu et pourquoi tu as été à Vegas, avec quels objectifs et comment tu as vécu ça?
Pour suivre l'Hipper, déjà, premièrement. Et moi, je me suis fait une grille de tournoi de toute la semaine, en fait, mais pas dans les grands hôtels, en fait, dans les petits hôtels. Donc, des tournois entre 100 et 200 euros, environ.
Dollars.
Donc, c'est ce qui reste une bourse abordable en tournoi de poker à Las Vegas. Et du coup, moi, j'ai fait tous ces petits tournois-là annexes au championnat du monde, en fait, pendant une semaine.
D'accord. Donc, t'as grindé un peu dans tous les petits casinos que t'as pu voir.
J'ai fait du KGM, des joyeux poker room. En fait, je m'arrêtais, en fait. Chercher un petit jeton, jouer, voilà.
Et du coup, toujours à la recherche de table, toi, t'étais vraiment à fond dans le jeu pendant ton,
ouais, un petit peu,
pendant
ouais.
ton voyage, quoi.
Bon, Aurore a réussi à me traîner pour une excursion.
C'est ça, il a fallu qu'on te traîne.
Ouais, c'est le dernier jour en plus.
Ah, le dernier jour en plus, ah, le jour où tu veux
là,
jouer.
Là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Moi, je veux y aller, c'est bon, t'as fait ta semaine de poker, maintenant tu viens faire une excursion avec moi. Et c'était formidable et je sais que tu regrettes pas.
Non, mais en expérience de joueur, ouais, c'est immense, en fait. Il y a tellement de tournois tout le temps, en fait. Tu te réveilles du matin au soir, t'en as, en fait. De 10h du matin à 3h du matin.
Et est-ce que tu as trouvé des différences un peu dans le style de jeu que tu as pu rencontrer là-bas par rapport à ce qu'on peut retrouver, nous, en France, chez nous?
Ouais, les Américains, parce que après moi, j'ai joué dans les petits casinos, donc c'était pas forcément des règles européennes ou quoi que ce soit. Et ouais, et les Américains, c'est des personnages. Il y a certains, c'est des personnages. Hein.
Ils font le show.
Ouais, hein. Ah, il y a certains showman et ouais, dès qu'ils ont touché une paire, ils vont pas te la lâcher, en fait, hein, je pense. Souvent.
Jusqu'au bout, ils envoient tout. Ouais. Hyper agressif.
C'est ça, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est quand même assez enrichissant. Ouais.
Tu disais que c'était quand même pas mal de tels aussi, qu'il y avait moyen de.
Ouais, bah, c'est le show, donc ils sont toujours en mode show, en mode bouger, donc. On va pas dire que c'est des Italiens, mais
mais pas loin.
Mais pas loin quand même. Non, mais ouais, c'est le show à l'américaine. Je suis tombé sur une ou deux tables de cash game, c'était vraiment un show à l'américaine. Hein. Extraordinaire. Ça criait. Ça. Mais voilà.
C'est aussi ce qu'on attend et ce qu'on recherche quand on va à Vegas. Hein. C'est justement de retrouver tout ce folklore autour des tables, quoi.
Moi, j'ai trouvé que les Américains, alors par rapport aux Français. Était très 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 fair play par contre, parce que si tu viens et que tu leur fais une horreur, ils vont te dire bien joué, ils vont te serrer la main, même s'ils ont le seum et que tu les as sortis.
Oui, même si c'est de l'ironie, ils vont quand même te le dire. C'est...
Non, c'est jamais en ironie.
Tu sens pas l'ironie du tout, non, vraiment. Il y a un respect du joueur, en fait, et peut-être de la variance.
Peut-être que nous, ouais.
Ouais. Mais un respect du jeu, en fait, c'est leur jeu, en fait.
Là, faut dire ce qu'il y a. En France, pas un jeu très fair play, justement, c'est à ça. Ce niveau-là, quand les gens sortent, le fair play, ils l'oublient un petit peu. Hein.
Non, pas un peu, beaucoup.
Non, mais faut pas oublier que le poker, c'est à eux quand même. Donc, non, mais c'est ils reconnaissent la défaite comme la victoire. Bien joué, bravo. À plus tard, et voilà.
C'est cool, ça reste convivial, ouais, même dans des milieux où il peut y avoir certaines sommes d'argent. On voit que la convivialité, elle est toujours présente au sein du poker, quoi.
Ah ouais, c'est ce qui. Retrace le plus fort quand même, parce que c'est vrai qu'ils disent j'ai jamais vu un mec énervé partir de table, même si c'est avec un gros bad beat ou quoi que ce soit, en fait. Toujours bien joué, allez, à plus. Donc,
ça, c'est plutôt un aspect positif du coup qui ressort du séjour. Et
c'est ça.
Voilà, c'est le poker, ça reste convivial. Où qu'on soit dans le monde, de toute façon, on va chercher la convivialité. Et du coup, on va parler un peu de Ben aussi.
C'est mon coach.
C'est ton coach.
Ouais,
c'est ton coach. Et du coup, Ben, toi, bah pareil, t'es parti à Vegas du coup pour découvrir un peu le folklore et pour jouer quelques tournois. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi, quel était ton but en partant là-bas exactement?
Alors, mon but, il était assez flou, hein, on va pas se mentir. Pour la petite anecdote, à la base, les vacances qu'on devait faire avec Aurore, c'était plutôt l'Écosse en camping-car.
on est bien loin de ça, du coup.
donc voilà, c'était différent. Non, bah écoute...
Il n'aurait peut-être pas eu la même chaleur.
Je ne pense pas. Et les mêmes paysages. Oui. Mais non, bah, moi, c'était découvrir la ville, hein, beaucoup, jouer un petit peu et pas se laisser trop entraîner non plus, parce que je suis quand même un joueur qui joue beaucoup en ligne, mais assez compulsif. Donc voilà, je pense que j'aurais bien besoin de revoir vos podcasts pour être un petit peu
surtout
plus détendu.
Surtout le petit message
à
final à la fin de chaque émission.
Le numéro qui est valide jusqu'à 2h du matin tous les jours.
Exactement.
Donc non, voilà, j'y suis allé en détente, on va dire, et puis pour découvrir, et puis pour passer des vacances aussi. Et faire des rencontres croustillantes. Vous pourrez découvrir un petit peu mes aventures dans le livre, qui ne sont pas du poker, disons-le, qui ne sont pas du poker.
Il y a aussi des choses qui se passent extra-poker, pour aller
ça
découvrir.
Fait partie des gars, c'est ça.
Mais oui, ça fait partie du folklore de là-bas, après. C'est...
Des exactement. Rencontres que tu as fait à la roulette, d'ailleurs.
Rencontres que j'ai fait à la roulette électronique, endroit où je venais me réfugier pour passer un peu le temps, j'adorais. Donc non, c'était toujours quand même, tout part du jeu, hein, quoi qu'il arrive, tout part toujours autour du jeu. Et voilà, mais non, bah après, pour la petite anecdote, ma première table de cash game à 100 balles, je me fais craquer ma couleur contre un full. Donc, bon, c'est un peu dur. Ouais.
Mais on pourra en parler du premier jour.
Ouais, le premier cash game, on du pourra en parler.
Cash game avec Tom.
J'aime beaucoup avoir des sous.
Pour la petite anecdote, je crois savoir que Jay et Tom, du coup, quand ils sont arrivés directement à Vegas, ont été faire un petit cash game et ils se sont retrouvés à la même table. Et du coup, non, ouais, ça a été un peu sportif. Et ouais.
Jay ne voulait pas jouer après 24 heures d'avion. J'ai quand même réussi à le motiver à jouer, chose que j'aurais pas dû faire. On a joué 4 mains au total ensemble. Au bout de 24 heures d'avion, ça s'est très bien passé.
Pour moi, ouais, j'avoue.
Tom n'a pas la même expérience, du coup, a priori.
Si, parce que moi, ça m'a fait rire, en fait. Mais bon, ça va perdre un peu d'argent, mais j'ai rigolé.
Je crois que Ben, son premier tournoi, a une petite anecdote marrante aussi, j'en parle dans le livre, mais comme on avait fait un cash game, notre première table c'était un cash game, et après notre seconde table c'était un tournoi. Faut savoir qu'à Vegas on paye pas les boissons si on joue, on donne un tips juste à la serveuse, les boissons sinon sont gratuites. Je te laisse raconter la suite.
Oui, voilà, non, ça va vous donner un petit peu mon niveau de poker aussi. C'est bon, bah, grossièrement, cash game, on donne $1, voilà, quand on reçoit sa boisson.
En jeton, du coup.
En jeton, voilà. J'ai tenté le coup en tournoi. Ils m'ont tous regardé autour de la table, surtout le pompier, n'est-ce pas ? Il m'a dit, mais... What do you do? What are you doing? Man, it's a tournament. J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'est vrai que ça n'avait pas les mêmes valeurs monétaires tout de suite. Et donc, j'ai récupéré mon jeton, j'ai sorti $1 et je l'ai donné penaud, on va dire. Et oui, mon voisin de table s'est bien marré et m'a clairement dit, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais j'étais stressé.
Un jeton de tournoi qui n'a aucune valeur, en effet, ça peut amener des problèmes.
J'ai tenté le coup. Mais non, voilà.
Bon, en général, le regard des gens te fait vite comprendre que tu as fait une erreur quelque part.
Ça n'aurait pas été long.
Je pense que tu as dû faire leur journée aussi après.
Oui, ils en ont parlé. Voilà.
Après, tout le monde en rigole, hein, voilà. Quand on voit que c'est fait sans mauvaise intention.
Oui. Clairement.
Ce qui est marrant, c'est que on n'était pas sur la même table à ce tournoi, mais on jouait le même tournoi. Et moi, je me suis fait la même réflexion quand j'ai gagné un bon coup. Je me suis dit, j'ai pris tous mes jetons, je les ai rangés. Et là, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû donner un jeton au croupier. Et comme j'avais
chose
pas
fait... Chose qui se fait en cash game.
Chose qui se fait en cash game. Et après, j'ai réfléchi que... Ah, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, non, on n'est toujours pas en cash game. Donc, et quand Ben, une heure après, me raconte son anecdote avec la serveuse, j'étais morte d'heure, je me suis dit, ok, on est dans le même mood.
Quelle coïncidence.
Le mood des amateurs. Ben voilà.
Vous avez vu un peu à quel genre j'ai parti à Vegas.
C'est pas facile.
On a souffert. Heureusement qu'on se réfugiait tous les deux. On parlait poker. Hein.
Ouais. Et puis on a la chance de s'adapter facilement, donc ça va.
On était là pour vous faire rire, ça va.
Non, franchement, non, ça a été une bonne team.
Oui, quand
tout le monde était bien enveillant vers les autres. Et franchement, il y a eu, ouais, franchement, comme je disais tout à l'heure, une bonne cohésion de groupe. Et ce qui a permis de vivre cette belle aventure, tu vois. S'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas été pareil, je pense.
Ça n'aurait pas eu la même saveur.
Ça n'aurait pas eu le même impact, la même saveur, le même. Ouais.
Ah, ça doit être dur de le vivre tout seul.
Bah, ouais, c'est.
Non, mais déjà, tout seul, ça doit être.
Je l'aurais pas fait seul.
Tout seul ou à deux, ça doit être tout seul. Ça doit être dur quand même, ouais. Parce que c'est quand même physique, hein. On joue quand même du matin au soir.
Il fait un peu chaud aussi dehors.
Il fait chaud. Donc, le fait d'avoir des amis, des connaissances avec toi, des potes.
Oui, non, mais ça.
Le soir, tu peux reparler de tes coups. Tu peux, si t'as pris un seul coup, toi, ils sont là pour te réconforter. Et puis c'est une aventure qui se partage aussi. Donc c'est humain. Hein. C'est une aventure très humaine. Donc non, franchement, il y avait tous les paramètres qui étaient réunis pour que ce soit magique.
Et justement.
Lisez le livre, vous verrez.
Oui, non, je voulais juste dire que quand Tom disait que j'étais son coach, c'était pas sur la technique. Hein,
c'était plutôt sur la piscine, peut-être.
Sur la détente.
Tout à l'heure, Jet a parlé de préparation physique avant le tournoi. Je voudrais bien en savoir plus parce que j'en parle pas tellement dans le livre et
c'est vrai.
Ça m'intéresse.
Ah, j'ai fait énormément de vélo, de marche à pied. Alors j'ai pas soulevé de la fonte, tout ça. Hein, non. J'ai plus fait du cardio parce que t'es quand même 10 heures assis.
Endurance et cardio, du coup.
Ouais, c'est ça. Donc même si t'es assis, ça reste physique, quoi. T'as une posture, tu dois être concentré, tu dois avoir ton poker face. Donc c'est fatigant, hein. C'est fatigant, faut pas croire. On dit que le poker, voilà. Mais ça reste un sport.
Mais juste.
Et il faut toujours être concentré, pertinent, réactif, toi. Donc tu peux pas te permettre de te laisser rentrer dans un coup de fatigue, un coup de mou.
Et le fait d'avoir fait du sport comme ça avant, ça t'a permis du coup de...
Ça renforce le physique et aussi le mental, parce que tu te sens plus en confiance. Tu te dis, bon, je suis prêt, machin. Donc mentalement aussi, ça a un impact.
Il y a une sorte de tonicité du corps.
Et d'une rassurance et d'une assurance. Quoi.
Et j'ai entendu dire que dans les casinos à Las Vegas, ils injectaient de l'oxygène à l'intérieur des casinos, justement, pour maintenir les joueurs éveillés et... un peu plus que, ah,
nous,
que les joueurs soient moins
dans notre
endormis.
Âge, c'était de l'opium, je crois. je sais plus, ouais.
Non, mais j'ai entendu dire réellement que dans les casinos au States, ça se faisait, en fait, quoi, et qu'ils injectaient de l'oxygène dans les salles, justement, pour que les gens évitent de s'endormir et s'alimentent.
Ça,
est-ce que tu as ressenti ces effets-là ou non?
Non,
vraiment, tu avais vraiment la fatigue à la fin de la journée qui était présente.
Non, tu ressens le froid, parce que à l'extérieur, il fait 50 degrés, tu rentres dans le casino, il fait 20 degrés.
Le contraste,
il est terrible. Mais
Non, tu n'as pas ressorti.
Non,
c'est des choses que j'avais entendues, que ça se faisait dans certains casinos, peut-être pas dans tous non plus, parce que c'est un certain coût quand même d'injecter de l'oxygène à longueur de journée dans les casinos.
C'est fort probable, mais je ne sais pas.
C'est sûr que dans certains casinos à Vegas, ça se fait en tout cas. Et après, c'était juste savoir si... On ressentait les effets au final ou
non,
quoi
bah,
parce que c'est...
Ouais, on est dans une euphorie tellement totale, forte, que peut-être que oui, mais déjà...
T'as tellement d'adrénaline et de...
Tu passes par toutes les émotions.
J'imagine.
Donc, je serais incapable de jauger ça si effectivement c'est vrai, tu vois. Je peux pas te dire.
En plus, on a été à Vegas quand même sur une canicule. Déjà, il fait chaud à Las Vegas, en au milieu du désert, on le sait, mais on a réussi à y aller sur un été de canicule. Donc on a eu des températures qui dépassaient les 50 degrés. Donc c'est sûr que Jay, pour qu'il reste au frais, il ne fallait pas trop qu'il sorte dehors.
Non, c'est sûr.
Il fallait mieux qu'il reste sous la clim de la salle.
Oui, parce que la chaleur fatigue, hein, malgré tout, le corps subit. Donc tu vois, tu te remets ça en plus. Donc j'ai fait quelques balades, quelques sorties. Forcément, j'ai profité quand même de l'esprit Vegas, mais je suis resté beaucoup au frais.
Mais en plus, vous avez pu quand même profiter un peu du folklore, parce que vous avez eu la chance d'arriver aussi durant la fête nationale aux États-Unis. Et du coup, je suppose que du coup, il y avait plein de choses qui étaient organisées. Il devait y avoir plein d'animations dans Vegas tournées autour de ça aussi, quoi, en dehors vraiment du poker et de ces choses-là.
Pas vraiment, en fin de compte, parce que moi, j'ai, à part un feu d'artifice, un gros. Mais sinon, là, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bon, il y a beaucoup d'Américaines avec des drapeaux et que des drapeaux sur soi.
Limper a retenu que les Américaines.
Ouais, ben, oui, façon, ben, c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Pour moi, c'était normal. Donc, voilà. J'ai quelques belles photos là-dessus, mais ils ne sont pas dans le livre.
On voulait le livre est illustré, mais on n'a pas mis ces photos-là.
Voilà, si voilà, Limper venait les fournir, on vous les mettra sur la page Facebook, vous inquiétez mais... pas.
Oui, on peut les mettre, effectivement, oui. Mais non, je n'ai pas trouvé que... le 4 juillet, ça ressemble pas au 14 juillet de chez nous.
Voilà, il n'y a pas le même engouement.
Non, je pense pas.
C'est parce que c'est Vegas, sinon.
Et c'est Vegas, oui, tout à fait. Il y a déjà tellement de choses.
Non, mais au State, que... tu le ressens, le 4 juillet, c'est la fête nationale quand même.
Parce que Vegas, c'est une ville de touristes.
Mais voilà,
quand même.
Mais ouais, Vegas, voilà. C'est une ville de jeux, de luxure.
Exactement.
Donc, il marque le coup, mais c'est pas ça n'a pas été un événement phare, tu vois.
Voilà, exactement. Et mon phare, c'est quand même le poker. Hein. Mais sinon, non, mais c'est vrai. Non, le 4 juillet, moi, j'ai pas trouvé de différence par rapport aux autres jours. Donc, voilà.
Ouais, juste un peu plus de drapeaux et de d'habits.
Voilà.
Et d'américaines.
Couleur américaine, ouais.
American, yeah.
Ouais.
American girl.
C'est ça. Et on parlait de la fatigue avec le Jay et toi, Limper. Est-ce que tu as pu ressentir aussi cette fatigue tout au long de la semaine, au fur et à mesure des parties?
Franchement, non. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de dormir beaucoup. Quand je dors 3 heures, ça me suffit.
Ah oui.
Donc, non. Franchement, non. Quand on sort du casino, effectivement, on prend une bonne bouffée de chaleur. Mais après, je me suis baladé. J'ai marché pendant 7 heures le premier jour.
J'ai
cru qu'on l'avait perdu.
Voilà, bah ouais, moi j'ai fait le tour de Vegas à pied et j'ai trouvé ça tellement beau que.
Tu t'es arrêté dans quelques casinos sur ta route
pour... Oh, bah le César, le Bellagio, tous les plus grands quoi.
Classiques.
Voilà, les grands. Je me suis perdu dans le Bellagio, j'ai tourné en rond pendant 1h30 quoi.
Pour retrouver la sortie.
Exactement, alors qu'il y a au moins 5 sorties et d'entrée quoi. Mais c'est tellement grand, il y a tellement d'étages, il y a tellement de choses à voir que. Bah, des fois, on passe 2 fois devant la même chose et on trouve ça super. Alors qu'on l'a déjà vu 1/4 d'heure avant quoi.
Ben aussi, tu l'as fait, toi, mais plutôt by night, du coup.
Plutôt by night, c'est plus dans le César Palace que je me suis perdu. Hein.
Voilà, ça va, je suis pas tout seul.
Donc voilà, mais oui, plutôt by night. Ouais. Savoir que des fois, les bâtiments sont interconnectés entre eux, donc on rentre dans une rue, on sort par un autre bâtiment, dans une autre.
C'est connecté, hein.
C'est connecté, c'est tout à fait immense et... Et voilà, on peut. Enfin, je comprends que tu te sois perdu pendant 7 heures.
Je ne suis pas perdu pendant 7 heures. Voilà, je me suis baladé 7 heures. J'ai perdu 1h30 dans un casino.
C'est moi qui me suis perdu, pardon.
Voilà. Non, attention. Non, je me suis bien baladé et c'était super. Franchement, si je peux regagner Red Tapetus, j'y retourne facilement.
Je comprends.
Voilà.
La main parfaite du Tilt Show.
Et pour clore cette émission, on a quand même la chance d'avoir tout ce beau monde qui est parti à Vegas. On va faire une main parfaite. On ne dira pas d'où a été tirée cette main parfaite. Vous le découvrirez peut-être vous-même. Mais on va pouvoir la jouer de bien des manières. Tom, tu nous dis ce qu'on a aujourd'hui ?
Allez, aujourd'hui on a les As.
Oh, cool !
Ce que j'aime.
Donc on est fin du D1 des WSOP, c'est la dernière main du dé. Nous sommes grosse blinde, environ 80 blindes. Tout le monde fold, après 10 heures, tout le monde a envie de rentrer, je pense. Relance de la petite blinde, avec As... Bah non, avec du on sait pas encore. Avec on sait pas encore, messieurs, dames. Donc relance de la petite blinde, nous avons les As.
Et je laisse nos invités, nos chroniqueurs débattre de ce qu'on fait. Et on verra après comment s'est passé le coup.
Trois bêtes pour moi.
Trois bêtes normales.
Trois bêtes pour moi aussi.
Allez, on est tous partis.
Également trois bêtes, forcément.
Moi, je colle.
Ah,
bah, donc... moi, je limpe. c'est mon truc, ça.
Donc, le coup en trois bêtes, normal.
Et Boule, il dit pas ce qu'il dit.
Il a dit trois bêtes, non?
Non, j'ai pas dit trois bêtes.
Trois bêtes, t'as 80 blindes.
Surtout, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous faites des trois bêtes à combien, quoi, en fait, au départ.
C'est ça? Parce que 3 bêtes, c'est facile.
Moi, je pense que je fais un 3 bêtes, on est en fin de journée, comme ça. Je pense que je vais être sur du 2.2, 2.4, quoi. Voilà, quoi.
Ouais, j'allais dire 2,5. Des fois, j'ai tendance à mettre 3, mais 2,5, c'est bien.
Ouais, 2,5, c'est pas mal, 2,5, 3. Oui, c'est...
Tom, toi, tu dirais quoi?
Ouais,
moi, 2,5, c'est court pour toi, je sais.
Ouais, moi, j'en vois... Moi, je pense que j'en vois parpin. je mets 3 fois ce qu'il en a, mais parce que c'est la dernière main et j'ai pas envie de forcément de la jouer. Ça fait 10 heures que je joue et j'ai envie de dormir. Au bout d'un moment, tu vois, t'as les as en grosse blinde, tant pis, t'as un stack pour demain.
C'est ce qui t'emmène au D2, donc...
C'est ouais. Ça, voilà, là, tu vas prendre 2 blindes en plus, voilà, c'est bien, et on arrête le coup, en fait. Donc, le coup, c'est joué comme ça, raise de... Des as normal, qui 3 bêtes. Par contre, la petite blinde, 4 bêtes all-in.
Ouais, 4 bêtes chauve.
4 bêtes chauve.
Elle a combien de jetons devant elle?
Elle est pareil que nous, 80 bébés quasiment. Ouais, on joue, on se couvre dessus.
Quoi.
En fait, on se couvre mutuellement. On joue à
un
bébé.
Un double up ou un out.
Voilà. Quelle serait votre décision? Dernière main du dé, de D1, de WSOP.
Je vais me coucher.
Tu vas te coucher.
Très sincèrement, je sens l'énorme douille qui va me tomber dessus. il est hors de question, je jette sans réfléchir.
Donc tu folles les as?
Je folle les as.
Ah, oh, c'est dur.
Sans problème.
Est-ce qu'on a un petit historique un peu du joueur? Parce que quand même, on est en fin de journée. Du coup, ça doit faire un petit moment qu'on joue avec cette personne-là. Est-ce qu'on a déjà une idée de son style de jeu, quoi?
Ça n'était pas un joueur agressif. C'était un joueur pas serré non plus, mais...
un joueur normal.
Un joueur normal, ouais.
Pas gros, pas serré. Il est capable de jouer des mains, mais il est capable.
Et il n'était pas là pour voler la grosse blinde, je pense. Il avait.
Il était armé.
Ouais, s'il avait raisé.
Bon, après, je pense que moi, ça serait un call pour moi sur cette main-là. Du coup, sur un joueur qui a potentiellement ce profil-là, il va rentrer avec les dames, les rois.
Il a les rois. En fait, là. Pour moi, quand il fait ça, il a les rois ou les as. On peut avoir les as ensemble.
Après, c'est un 80-20, du coup, je pense que pour moi, c'est un call sur cette main-là.
Même avec as-roi, si c'est un profil assez sérieux, il ne fait pas ça en fin de D1, en fait. Normal. À moins qu'il soit vraiment fatigué et que... Ce qu'on parlait de la fatigue.
Que, comme toi, tu disais, il va arrêter le coup tout de suite. Quoi.
C'est ça.
Je pense qu'il s'est fait surprendre. Il voulait juste voler les blindes, mais... T'attendais pas à avoir.
En plus, c'est un combat de blindes, du coup, c'est ça?
C'est ça, ouais.
En plus, il peut sentir un vol sur la dernière main.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est plus ressenti comme ça.
Et toi, Limper, tu ferais quoi? Tu folderais ou tu collerais?
Comme d'habitude, je vais coller, mais je vais la perdre. Parce que c'est les as. C'est obligé. Je gagne jamais.
Aurore, que ferais-tu?
Je tank beaucoup. Parce que franchement, dernier jour, tu dis, si tu payes et que tu le gagnes, super bien pour le D2. Mmh. Par contre, perdre là avec les as en main après 10 heures de jeu, ce serait la loose ultime. Et en même temps, je peux pas folder. Quoi. moi déjà, je folde pas facilement. Je peux pas folder les as, c'est mort. Donc je tank.
J'insta-call.
Ça me saoule, mais... Non, j'y vais.
Moi, j'insta-call direct. Allez, c'est parti, non, on a les as.
Je serais plus comme Aurore, ou bien sûr, je vais prendre le temps de la réflexion et je vais faire un bon temps qu'avant, prendre le temps de la réflexion.
Je crois que malheureusement, moi, je prends pas le temps de la réflexion et je colle direct. J'ai les as en bagarre de blinde.
Même si tu réfléchis un peu, je pense que tu colles.
Ouais, tu colles. Tu viens, t'arrives forcément à un call, mais quand même, tu te dis, c'est un tournoi important, je veux quand même être sûr de ne pas faire de bêtises, donc tu repenses toutes les choses dans ta tête.
Je vous rappelle que le WSOP, c'est en 10 jours. Hein. Ouais, donc on n'est qu'à la fin du D1, donc voilà.
Ouais, mais à contrario, pour entamer les 10 jours, il faut quand même...
Il faut monter un stack quand même, on est d'accord.
Donc, c'était soit, là, ça sortait, c'était bust à la dernière main pour cette personne-là. Ou soit il arrive en D2 confortable, tu vois.
Et toi, tu ferais quoi, du coup, Jeff? Tu nous as pas dit, toi, ce que tu ferais.
Ah, mais moi, j'aurais collé. Hein. J'aurais fait un peu d'acting, tu vois. Et parce que bon, c'était la dernière main. Et je jouais, je colle forcément.
Ouais, je crois qu'on est tous unanimes autour de la table. Je crois que c'est un call. Après, malheureusement.
Non, Ben, il a fold. Lui, il va se
coucher. Ben, c'est un fold. Il va coucher. Ah,
il y a Ben qui fold.
Il était déjà couché. Était
non, mais il a quasiment.
Ben, il veut juste aller dormir, ah, lui.
Ouais. Le WSOP, il s'en fout. Ouais. Non, mais
au moins,
tranquille.
Au moins, il a raison.
Des deux, il assure son
deux. Je peux pas critiquer parce qu'au moins, il revient le lendemain. Il est toujours en jeu. Il a toujours de la profondeur pour jouer.
C'est ça.
Il y a aussi un choix qui se respecte. Je pense.
Mais je pense que les deux choix se respectent.
Ah, les deux, oui, tout à fait.
Ouais, bien
tout
sûr.
À fait, tout
ça,
à fait.
Ça peut très bien, ça peut très bien se folder.
Parce qu'après, c'est pas un sprint, c'est un marathon, les WSOP, on sait.
C'est ça.
Mais carrément,
c'est ça.
À 80 blindes, en fait, c'est qu'à 80 blindes, je coffre, c'est surtout ça aussi. Si je suis un peu short, j'y vais, mais à 80, j'y vais.
C'est
pas.
Ça, t'as encore de la profondeur. Et là, tu te dis, j'investis tout mon tournoi sur une main, alors que je pourrais en voir tellement d'autres encore après. Quoi. C'est toujours la question ultime.
Donc, on colle.
Pour moi,
allez,
c'est un call.
C'est un call, sauf Ben. Donc voilà, il retourne As de carreau avec le roi de carreau. Donc on est potentiellement pas mal.
Pas mal. Jusque-là, on a le brelan. Du coup,
On n'a pas brelan.
C'est l'adversaire qui a
l'adversaire. C'est l'adversaire qui a As-Roi de carreau. Pardon.
Carreau, ouais. Donc le flop, c'est 7 de carreau, 4 de carreau.
Aïe.
Et 10 de pique.
Oh, déjà, là, ça met la pression.
Donc déjà, là, on voit la fin du DA arriver.
Là, c'est le moment où t'as la goutte de transpiration qui commence à perler.
Le joueur, il devait perler des gouttes comme ça.
Ça, ouais, c'est...
Donc, valet de trèfle, la turn, et 3 de cœur, la river. Donc, ouf, on double up au dernier jour du DA.
À savoir que dans ce type de tournoi, ils sont très, mais alors très, très lents à retourner les cartes.
C'est
interminable pour le joueur qui attend la décision.
Donc là, c'est un double up, ouais.
C'est ce qui fait qu'on a une main parfaite, puisqu'on double up.
Ouais, on arrive sur un des deux.
Et c'était quand même
avec un stack confort.
Voilà. Bon mais quand choix. On voit le flop,
je pense qu'il est temps d'aller se coucher après ça, parce qu'après avoir le palpitant qui est monté à 220 sur ce flop sur ce bord de là,
ça doit pas être facile.
Moi, je pense qu'on peut pas aller se coucher tout de suite.
La montée d'adrénaline,
il faut redescendre un peu.
Surtout sur la dernière main.
Ouais, parce que
au pire, tu vois la fin du day, il te reste une demi-heure, tu joues aucune main, ça se passe bien, tu commences à être reposé. Mais quand la dernière main, tu vois les As en grosse blinde, je pense qu'au bout de 10 heures...
Ouais, d'un côté, je pense quand même que t'es content. Parce que j'étais toujours content de recevoir deux As dans tes mains. Quoi. Après, encore une fois, c'est la dernière main du jour. La pression.
Soit tu double up, soit tu bustes. Hein. C'est waouh.
Ça. Terrible, cruelle décision.
Cruelle décision. Mais bon, après, ça reste le poker. Donc, je pense que le mec, il a dit les As, on y va, quoi.
Ben, en même temps, il a eu raison, je pense que.
Ouais, et puis.
90% des joueurs a fait pareil, ça confirme un peu ce qu'il y a dans le studio.
Surtout
quoi,
que
du coup.
À la base, le joueur, il voyait ça comme un vol de blinde, donc tu vois, il s'est dit.
Ben, c'est ça, c'est un combat de blinde en plus, donc c'est vraiment un coup atypique, entre guillemets, où c'est vraiment des blindes.
Les As, ils se sentaient quand même un peu plus sereins, tu vois, je pense.
C'est ça, ben, de toute façon, avec les As, tu te sens forcément plus serein, mais après, que va-t-il se passer ? Parce que tu pars à tapis pré-flop, et il y a toujours les 5 cartes qui arrivent et qui peuvent. Qui peuvent faire du mal quoi.
Au moment où tu peux prendre même qu'une double paire et bon, t'es bust.
Bon, c'était une belle main parfaite en tout cas pour clore cette émission.
Maintenant, on retourne à la chambre d'hôtel, on change de caleçon et on va.
On se fait une bonne nuit et on repart pour le B2 surtout.
On change de caleçon aussi.
Là, tu peux prendre une douche et tout, c'est bon.
Midi, minuit, hein, quand même, pour les joueurs.
C'est ça, c'est 10 heures de poker tous
les jours.
12 heures avec de la dépose.
C'est 12 heures et dépose toutes les 2 heures. C'est ça, un quart d'heure de pause toutes les 2 heures.
Un quart d'heure de pause toutes les 2 heures. Et puis, le dinner break, c'est 1h10. Et donc, les premières journées, ça va, tu vois. Mais déjà, quand tu arrives un peu plus tard dans le tournoi, quand tu arrives au dinner break, tu es content, tu as une pause. Mais après, tu dis encore 4 heures derrière. Et je pense que c'est les 4 heures là qui sont difficiles où tu dois encore rester concentré,
digérer en même temps.
Voilà, performant, digérer. Et puis
je sais pas si c'est pour vous comme pour moi, mais j'ai une fâcheuse tendance après les dinner break à avoir un gros taux de déconcentration pendant la digestion en fait quoi.
Beaucoup dans tous les tournois qu'on voit, même les petits tournois Texas Poker à droite à gauche. On le voit après le dinner break, souvent ça part un peu plus vite. Hein. Mmh.
Ouais, il y a un petit moment d'euphorie, d'excitation, tout le monde est un peu plus et un peu moins concentré comme ça après un long break. Il faut se remettre dedans.
Focus très rapidement, ouais.
Et du coup, on termine l'émission, du coup, comme d'habitude, en vous rappelant qu'on ne joue pas au-dessus de ses moyens et que pour tous les joueurs qui ont des problèmes, que vous connaissez, si vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec le jeu, ou si vous-même, vous avez des problèmes de jeu...
Ben, n'hésite pas à noter le numéro.
Prends des notes, Ben, prends des notes.
Je voulais faire un petit point de prévention. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais un peu plus jeune et ça m'a un peu bouffé, voire beaucoup. J'ai eu le courage de faire une demande à la NJ pour être radié pendant 3 ans des salles et des sites. Et ça, il faut faire attention. Et puis, il faut prendre des décisions parfois d'arrêter et de se restreindre vraiment parce que ça peut être dangereux. Voilà.
Et des fois, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à en parler autour de soi. Et du coup, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le 09 74 75 13 13. C'est Joueurs Info Service. Ils sont disponibles de 8h du matin à 2h du matin, 7 jours sur 7. Et ils sont aussi disponibles par chat si vous ne souhaitez pas voir quelqu'un directement. Ça peut être gênant des fois de parler de vive voix à quelqu'un. Si vous avez plus de facilité à exprimer vos sentiments à l'écrit, n'hésitez pas aussi à les contacter par chat.
Merci beaucoup, Boule.
Merci à Boule d'avoir animé cette émission un peu spéciale, quand même.
Donc on vous rappelle, le livre, c'est Coup de Poker, disponible sur Amazon, de AYG Bleu, c'est mon petit nom d'autrice.
La classe.
N'hésitez pas à le commander. Il est au modeste prix de 13 euros, parce que je trouvais que 13, c'était un bon chiffre pour un jeu de hasard.
Ouais. Parfait.
Pas cher.
Merci en tout cas à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne continuation à tous dans le milieu du poker.
Merci.
Merci bien.
Merci à vous. Merci à tous.